Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers.
Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, Dinan ». Quand j'ai commencé ce projet, la première chose que je me suis dite, c'est qu'il fallait que j'aille à la bibliothèque pour lire sur Dinan. Une fois rendu devant, mais pourquoi me jeter directement sur un livre, alors que je ne sais même pas où cela se passe? Donc, durant ces 8 mois, je suis allée à la rencontre des pierres. Alors oui, j'ai fait le tour de Dinan plusieurs fois, mais pas que. Saint-Aubin-du-Cormier, le camp de Perron. Je me suis arrêtée à chaque fois que je voyais une vieille pierre, qu'elle soit médiévale ou non. Je me suis interrogée sur son histoire. Je me suis rappelée qu'enfant, j'avais visité le château de la Hunaudaie. J'ai rencontré le directeur de l'association, qui m'a parlé des belles initiatives qui ont été faites, qui sont prises encore aujourd'hui, pour mettre en valeur ce château et toutes les initiatives faites sur notre patrimoine. Comment valoriser notre patrimoine aujourd'hui? Question qui m'a beaucoup touchée lors de ces 8 derniers mois. Car aujourd'hui, il y a de nombreux acteurs, de nombreuses personnes qui mettent en valeur notre patrimoine, qui permettent de faire vivre ces pierres, ces histoires, et sans elles, elles seraient oubliées. Bonjour Frédéric, je vais vous laisser vous présenter.
Bonjour, donc Frédéric Ahmed, je suis le directeur de l'association du château de la Hunaudaie, donc qui se trouve à Plédéliac, et qui est en gestion le site du château de la Hunaudaie, comme nous allons le voir.
Et ce château, il appartient à qui?
Alors c'est un site, c'est une propriété départementale, donc on fait partie des 6 sites départementaux des Côtes d'Armor qui sont en gestion associative pour la moitié, il y en a 3, c'est le cas pour Paimpol avec l'abbaye de Beauport, avec Bon Repos à Saint-Gelvin-le-Bavet et avec nous-mêmes, et il y a 3 sites qui sont en régie directe.
Est-ce que nous pourrions revenir sur l'histoire du château très brièvement? Qui a créé ce château?
Donc c'est la famille Tournemine, effectivement, autour de 1220, du XIIIe siècle. Sûrement la suite d'une mode féodale qui était déjà installée. Mais la famille Tournemine a créé le premier château, donc on a fêté les 800 ans l'année dernière, autour de 1220, on n'est pas sûr de la date précisément. Château qui a été incendié. Donc là, au niveau des fouilles archéologiques, on a pu trouver des traces de cet incendie. On ne sait pas d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, on ne sait pas si le château a été un jour en état de siège ou pas, s'il était au cœur d'une action militaire, ça on ne sait pas et on ne le saura sans doute jamais. Mais en tout cas, les fouilles ont montré un incendie, quelle que soit la cause. Sur ce reste de château, il nous reste une tour et un début de courtine, ce qu'on appelle nous la tour de la chapelle, a été construit le château actuel, en tout cas 5 tours qui ont constitué effectivement une place forte pour la famille Tournemine. Donc c'est la deuxième vie du château. La troisième vie, c'est quand le château est passé d'un passé militaire en tant que place forte à un passé un peu plus de logement confortable pour la famille.
Donc l'âge d'or de la Hunaudaie coïncide avec la disparition des Tournemines, j'imagine?
L'âge d'or, ça dépend ce que vous entendez par l'âge d'or. L'âge d'or de la famille Tournemine, il y a eu plusieurs périodes. En fait, il y en a 2 grandes. Dans un premier temps, lorsque le château a été construit, il a été construit pour une raison bien particulière. On était en pleine guerre de succession de Bretagne. Il se trouve vraiment sur un territoire, sur une frontière. C'est un territoire très particulier lorsque vous arrivez. C'est une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi ce château n'est pas sur un promontoire? Un peu à l'image des châteaux de Dordogne ou autre. Il n'y a pas beaucoup de promontoires autour de la campagne de Plédéliac. Mais par contre, il a un énorme avantage, au moins 1, mais peut-être 2. Il y a la forêt des Hunaudaie qui permet d'avoir beaucoup de choses, aussi bien en combustible que en lieu de défense. Mais surtout, il est entouré de marécages. Donc, il est vraiment sur une zone limite encaissée. Mais il est entouré il y avait 2-3 étangs historiques qui ceinturaient le château. Il n'y avait qu'une voie d'accès qui était très facile à défendre. Donc, c'est vraiment un emplacement naturel qui permettait de se défendre en partie. Mais surtout, il était là parce qu'il fallait occuper cet espace-là. On était en plein conflit entre Dinan et Lamballe, donc sur 2 territoires qui s'opposaient. Donc quelque part, c'était une façon de s'approprier ce territoire-là.
Le château a été de moins en moins entretenu à partir du XVIIe siècle.
Tout à fait, ouais. À partir de la mort du dernier descendant, il a été racheté par différentes personnes, notamment des édiles, notamment René. Mais il a eu une vie un petit peu en pointillé jusqu'à effectivement devenir un peu plus déliquescent, jusqu'à devenir une carrière de pierre. Donc là, on était vraiment dans cette logique de démantèlement. C'était plutôt un lieu de ressources pour le propriétaire qu'un lieu de vie ou d'apparat. Donc il a perduré un petit peu comme ça jusqu'au XXe siècle, où vraiment il a perdu de sa superbe. Il a été très largement démonté ou vente, où on a pu aussi emporter quelques pierres, mais c'est surtout un lieu sur lequel on a puisé des ressources, un peu comme les fortifications Vauban dans d'autres communes. Effectivement, ça n'avait plus d'intérêt de défense, ça n'avait plus d'intérêt en termes de logement. On n'était pas encore du tout dans cette logique à l'époque de patrimoine, de tourisme et autres. Donc c'était simplement une carrière à ciel ouvert. Donc on a pu en profiter en tant que tel. Après, durant tout le 20e, c'est un petit peu une autre logique. Donc le château était un peu en déshérence, mais restait extrêmement bucolique. Et surtout, c'était, on appelait ça les tours à l'époque, c'était un lieu qui était très connu par les habitants du territoire, plus ou moins large. Mais ce côté bucolique et romantique, effectivement, permettait d'avoir pour les enfants un peu une piste de jeu, entre guillemets. On pouvait faire un peu les 400 coups. Ça pouvait être un lieu pour les familles dominicales, après la messe, se retrouver pour le repas et passer le dimanche un peu comme sur une plage. Ça pouvait être, en fait, il y a même des gens, on sait qu'il y a des gens de Dinard qui venaient passer leur dimanche autour, tout simplement parce que le décor était un petit peu enchanteur, parce que c'était un château, vestiges qui étaient ouverts aux quatre vents. Donc quelque part, effectivement, il n'y avait pas de difficultés. Il n'était pas encore en eau, les douves étaient encore sèches. On pouvait passer par la poterne et effectivement, tout le monde pouvait rentrer. Donc quelque part, c'était un espace public tout en étant privé. Mais c'est un lieu qui s'est très facilement approprié les gens de l'extérieur et surtout les gens locaux, puisqu'ils ont toujours connu le château. Ils ont toujours vu les tours dépasser de la forêt. Donc quelque part, voilà, ça appartenait un petit peu à tout le monde, en tout cas dans l'esprit. Donc effectivement, ça a duré tout le 20e. Après, il y a eu des difficultés. Effectivement, cette fréquentation a engendré quelques accidents. Il y a eu un décès, des personnes se lançaient des petits défis de monter sur les tours. C'était notamment des jeux d'enfants, mais les adultes le faisaient aussi. Toujours « prends-moi en photo lorsque je suis tout en haut », sauf qu'il n'y avait plus d'escalier. Le château, je le rappelle, a été brûlé en 1793, après la Révolution. Donc effectivement, c'était un lieu qui devenait extrêmement dangereux. Très mignon pour les personnes qui restaient en bas, mais très dangereux pour ceux qui essayaient de monter sur des murs, puisque là aussi c'était plus ou moins accessible. Donc voilà, ces accidents ont obligé, et surtout des parties de murs ou de tours qui s'effondraient, ont obligé en différentes étapes à classer le château dans un premier temps, à faire quelques débuts de restauration, parce que ça appartenait à l'État à ce moment-là, jusqu'à une interdiction d'accès au site, plus ou moins obéi, entre guillemets, mais effectivement, là, il a fallu sévir un peu plus. En fait, c'est un peu le signal d'alerte hein, pour l'association. C'est à ce moment-là que l'association s'est créée. Alors, on est aussi dans les années 70-80, grande période d'émulation associative, de défense du patrimoine. C'est vraiment dans ce contexte-là que l'association, qui date de 1977, s'est créée. Voilà, un petit groupe de personnes, comme toujours, avec un certain dynamisme, se sont dit qu'on ne pouvait pas laisser ce patrimoine local dépérir. Donc, ils ont eu cette double logique. La logique 1, de faire des signaux de fumée aux élus et autres qui pouvaient effectivement faire quelque chose. En tout cas, ils les ont interpellés pour dire que là, on a un patrimoine qui est en train de tomber. Donc, c'est maintenant qu'il faut intervenir. Et il y a toujours cette deuxième volonté en arrière. On n'est pas uniquement dans ce côté sauvegarde qui est fondamental, mais on n'est pas uniquement dans ce côté-là. On est aussi dans cette logique de c'est une ressource qui appartient à tous, historiquement comme visuellement, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on le voyait constamment et les gens venaient constamment passer un certain temps au château. Donc, il fallait le mettre à disposition du public. Donc, là aussi, on n'était pas encore dans cette logique de tel qu'on l'est maintenant. Ça s'est monté au fur et à mesure des années 80 jusqu'aux années 2000. Mais en tout cas, tout de suite, on voulait le préserver pour l'offrir à tout à chacun. Donc ça, c'était vraiment une double démarche. Mais quelque part, on est dans la démarche logique que j'évoquais précédemment. Toutes les assos de défense du patrimoine à cette logique-là. C'est un en sauvegarde pour le figer, pour le garder, pour le maintenir et qu'il ne disparaît pas. Et après, on le présente à tout à chacun puisque c'est un bien commun.
Et cette restauration du château, elle a été faite à partir de quand pour le public?
Alors c'est un projet qui a commencé à vraiment être pensé dès les années 2000, où il y a eu plusieurs projets qui se sont montés, avec cette idée effectivement que lorsque le projet serait finalisé, il y aurait une passation entre l'État et le département. Donc le département a aussi poussé à ses études. Donc ça a pris, on va dire grosso modo, 5 ans. À partir de 2005, le projet a été rédigé par Suzanne de Proto, qui est une des personnes qui est responsable, qui est conservatrice aux ABF, hashtag des bâtiments de France. Et ça a perduré pendant 3 ans. Il y a eu 3 ans de travaux, 3 bonnes années, on peut même presque dire 4. Mais grossièrement, en 2008, le projet était présentable au public. C'est une date qui est un peu symbolique pour plusieurs raisons. Donc 2008, là, c'est la fin des travaux. Effectivement, le château désormais a été sécurisé et a été restauré dans une certaine version qu'on pourrait évoquer après. Mais en tout cas, le château, on a arrêté sa dégradation. Donc ça, c'est le premier point très important. Deuxième point, c'est qu'effectivement, puisque le site est maintenant rénové, il peut passer de l'État au département. Donc à partir de 2008, le département des Côtes d'Armor devient propriétaire de ce site-là. Ensuite, puisqu'il est restauré, on va pouvoir l'ouvrir au public. Donc, il y a un peu une transition entre la façon de faire de l'association pendant 30 ans, on va dire de 77 à 2008, à l'après-2008. Alors, quelque part, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais l'équipe s'est professionnalisée à ce moment-là. C'est vrai qu'on est passé d'une autre logique. Maintenant que l'outil était disponible, il fallait pouvoir le faire vivre et l'entretenir. Donc, il fallait avoir une équipe qui soit là constamment. Et une équipe qui soit un mélange de bénévoles, parce qu'on est toujours sur régime associatif, et de salariés qui sont un peu plus professionnels. Donc effectivement, là, c'est aussi un peu un passage de témoin, entre guillemets, entre une équipe de professionnels et une équipe amateur, bénévole, même si actuellement, on est toujours sous ce régime associatif. Donc effectivement, il y a un bureau avec qui on travaille en continu, mais c'est vrai qu'il y a une équipe au quotidien qui s'occupe du site. Donc c'est un peu aussi un passage de témoin à ce moment-là.
Comment restaurer un château en ruine avec toutes les horreurs possibles ?
Je vais démarrer par... Alors, j'ai une réponse que je vais vous apporter, mais je vais démarrer par une anecdote qu'on nous dit régulièrement. Je ne vais pas dire tout le temps, mais qu'on nous dit régulièrement. En général, les gens, lorsqu'ils arrivent au château, pour X raisons, ils ont vu une brochure de communication ou dans la presse ou autre, ils ont l'image d'un vestige, limite d'une ruine. C'est des fois des choses qu'on nous dit même, on n'est pas venu parce qu'on sait qu'il n'y a rien à y voir. C'est quelque chose qui peut être pris comme cela, mais lorsque les gens font la démarche de venir... 2 heures après ou 2 heures et demie après, lorsqu'ils repartent, ils nous disent « Eh ben, on a bien fait de venir parce qu'on pensait pas qu'on allait voir autant de choses. On pensait pas passer aux deux temps. On pensait que ça allait être réglé en une demi-heure. Voilà, on allait faire plaisir aux enfants. Mais nous, on n'avait pas pensé s'intéresser au lieu. Et en fait, j'ai été surpris parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir de par le site, la nature du site et parce qu'on y propose nous à l'intérieur. Donc, c'est une anecdote qui montre que les gens sont toujours prêts et en disant au revoir, ils nous disent « On va demander l'argent au département pour qu'ils finissent les murs, pour qu'ils puissent retrouver sa superbe. » Et c'est là qu'on explique le site tel qu'il est. C'est la volonté de l'architecte des bâtiments de France, comme j'évoquais tout à l'heure. En 2008, c'est vraiment le propos même du projet, mais c'est un choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on part d'un vestige, avec des murs qui sont perdus, et des murs abîmés ou des murs entiers, il y a plusieurs solutions. Là-bas, une certaine partie, et on reconstruit du neuf dessus. C'est un choix qui est peut-être le plus dur, parce que c'est pas celui qui permet une meilleure restitution du bâti. Il y a un choix qui... Et à l'inverse, on refait quelque part à 100% tel qu'était le site. Mais ça, il faut des archives pour pouvoir le faire, ce qui n'était pas notre cas. Comme j'ai dit tout à l'heure, en 1793, le château a brûlé et à cette époque-là, énormément d'archives étaient sur site. On a très très peu de traces de ce qui était le château à cette époque-là. Alors, par comparaison, par les travaux des archéologues, on sait à peu près tel que à 95%, on sait à quoi il devait ressembler. Mais voilà, on n'a pas de certitude sur plusieurs sujets. Donc, le choix qu'a pris Marie-Suzanne de Ponto. Elle a préféré garder le présent. Le consolider, le solidifier, lorsqu'il fallait refaire un chemin de ronde pour pouvoir communiquer entre deux tours. Voilà, c'est des choses qui ont pu être installées. Mais elle voulait surtout pas prendre de parti et en tout cas laisser la part belle à la médiation. C'est-à-dire que le château tel qu'il est, on le sécurise et on en fait un circuit pour que le public puisse le découvrir intégralement. Mais on ne met pas de rajout où on est éventuellement un peu incertain. On va simplement donner cette mission à la médiation, c'est-à-dire aux personnes qui sont sur site, pour pouvoir effectivement expliquer tel que le château était à l'époque, ou en tout cas tel qu'on estime qu'il était, même si je le disais tout à l'heure, on est à peu près sûr de ce à quoi elle ressemblait. Mais voilà, il y a toujours cette part d'incertitude. Donc il y a d'autres exemples qui ont été un peu à l'opposé de ça. Le Haut-Königsbourg en Alsace, voilà, qui effectivement a été très largement abîmé, a été reconstruit parce que là on savait exactement à quoi elle ressemblait. C'est également plus proche de nous le cas de Susigno, qui effectivement a été très largement abîmé et qui a été reconstruit parce qu'on savait exactement tel qu'il était. Donc il a été restauré d'une certaine manière. Nous, on n'avait pas cette archive possible sur lequel on pouvait s'appuyer. On est plutôt parti sur un autre axe. En tout cas, Marie-Suzanne a proposé ce projet-là. Nous, on a un choix un peu particulier. Alors quelque part, nous, on n'est pas du tout frustrés par cela, parce que ce mélange d'anciens, donc historiques, et d'amélioration, donc c'est des composantes modernes, en fait, qui ont été ajoutées, type un escalier pour descendre le long d'une tour, un escalier monumental de 25 mètres, en métal. Donc effectivement, c'est une pièce qui a été faite sur mesure spécifique. C'est des choses qui s'intègrent très facilement. En tout cas, c'est le parti qui a été pris. C'est quelque chose qui s'imbrique vraiment entre l'historique et le contemporain. Donc c'est quelque chose de très discret, mais assumé. On n'est pas dans des couleurs clinquantes, on veut que l'escalier ou les pierres de granit soient visibles, mais on cherche pas à les cacher d'une manière ou d'une autre. On veut que ça soit le plus neutre, mais on l'assume quelque part. Voilà, c'est un choix qui a été pris à ce moment-là et qui nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nous disait vraiment, nous, nous paraît pertinent parce qu'il y a d'autres lieux. Enfin, la Bretagne est assez riche de sites patrimoniaux. Donc, quelque part, quelqu'un qui veut aller voir un site qui n'a pas bougé, il peut tout à fait aller à Plevdon voir le Fort-la-Latte. Hein. Quelqu'un qui veut voir où le château à Dinan qui est ouvert depuis quelque temps, il veut voir un site qui a été abîmé mais restauré, il va à Suciniau dans le Morbihan. Et s'il veut voir un manoir qui n'a pas bougé, c'est aussi possible. C'est plutôt privé, mais c'est aussi possible. Donc, il y a vraiment des tas, quelque chose qui est plutôt en l'ordre du vestige. Il va à Créen avec le château de Guido qui est aussi un site départemental et qui est en train d'être rénové. C'est encore aussi notre logique. Il y a plusieurs parties possibles. Nous, c'en est un. Et quelque part, on n'est pas beaucoup à avoir ce parti-là. Donc, quelque part, c'est assez intéressant de pouvoir offrir différentes options à un public qui serait intéressé par la thématique château. Donc, voilà, il pourrait, en fonction de ce qu'il a envie de voir, aller voir un site ou un autre, gratuitement ou pas, en visite autonome ou avec médiation, restitué ou pas. Voilà, il y a différentes options. On en a choisi une. Et nous, ça nous convient comme ça.
Entre moderne et médiéval, vous avez mis en place un dispositif de modélisation 3D pour voir le château comme il pouvait être.
Ouais, alors là, en fait, il y a plusieurs projets. Il y en a un actuel que je pourrais évoquer très vite, juste après, mais il y a un premier projet qui a été fait en 2015, effectivement, le château Unod 3D, qui se présente sous trois formes. Il y a une première forme, c'est des éléments qu'on présente dans le parcours donc de visite du public. Il y a un film notamment qui est projeté, qui fait 6 minutes, qui est projeté sur un mur et qui retrace l'histoire du château, de sa conception jusque, grosso modo, effectivement, un peu après la Révolution, donc on va dire 18e, 19e. Là, c'est plutôt pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la médiation. Voilà, c'est un élément qui permet d'être vu tout simplement par le public en déambulant. C'est dans la première tour, voilà, c'est au tout début de la visite. Donc, il peut faire ça en autonomie. À côté de ça, dans la même pièce, il y a également un module, c'est une tablette tactile, où on commence à voir quelques mots, quelques sémantiques médiévales, où les enfants peuvent manipuler, on peut voir quelques pièces reconstituées, ils peuvent s'amuser à baisser le pont-levis, etc. Donc là, c'est un peu plus pédagogique. Donc c'est deux outils qui sont à disposition, entre guillemets, du public individuel. C'est une première logique. Il y a une deuxième logique. Au niveau de l'accueil, il y a un mobilier qui présente une tablette, justement, qui est beaucoup plus axée sur les personnes en situation de handicap, ou en tout cas, on va dire une logique universelle. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent pas gravir les marches et monter dans les tours, notamment là où est le film, tous les éléments ont été ramenés à lui, c'est-à-dire sur son mobilier A, dans la tablette, et intégrer le film, et intégrer une traduction en langue des signes, et intégrer le château virtuellement qui peut se concevoir justement numériquement en 3D. Donc, lorsqu'on passe la tablette sur un pictogramme, on voit le château qui se formalise dans la tablette de façon animée quelque part. Donc c'est même des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Une personne qui est tout à fait capable de gravir les marches, lui, s'il va pas voir cette tablette en fin de parcours, ben lui, quelque part, va passer à côté d'une personne qui serait en difficulté, qui, elle, l'aura vu. Donc voilà, c'est un module qui a été conçu spécialement pour les personnes qui ne peuvent pas gravir et faire l'intégralité du site en tant que visite. Donc voilà, c'est un deuxième outil, et le numérique, justement, permet ça, permet de pallier à certaines carences. Et il y a un troisième volet, c'est des tablettes qu'on peut faire et qui sont utilisées pour des visites guidées, mais avec tablette tactile, c'est-à-dire lorsqu'on est en période estivale, en juillet-août, il y a des visites classiques avec des médiateurs, mais il y a aussi des visites qu'on propose, en général, c'est à 11h et 17h, des petits groupes sont formalisés à qui on prête une tablette. Et là, c'est une autre logique de visite guidée. Donc, on ne fait pas du tout le même discours, on ne fait pas le même parcours parce que cette tablette vous emmène sur 6 points spécifiques du site, dont une est fermée au public habituellement parce que c'est la salle pédagogique. Donc, c'est l'ancienne, justement, c'est l'ancienne salle, c'est l'ancien logis du Seigneur. Donc, quelque part, la visite avec la tablette permet d'aller voir cet espace-là qui, normalement, est fermé au public. Et c'est à base de reconstitution, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous avez la reconstitution du lieu que vous visez avec la tablette, j'imagine, type cette pièce-là, vous avez la pièce qui est complètement reconstituée avec le mobilier tel que c'était 3 siècles ou 4 siècles en amont. Mais à côté de ça, il y a toujours un échange avec le médiateur, parce que le médiateur peut apporter d'autres éléments. Il n'y a pas que cet aspect visuel. Donc ça, c'est un premier axe de la tablette. Un deuxième axe, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments d'information, type des anciennes cartes postales ou d'anciens visuels sur lesquels on peut rebondir. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont manipulables justement par les enfants. Donc c'est quelque chose qui se complète très bien avec un médiateur. On n'a pas parti là non plus avec ce choix de proposer la tablette au public individuel comme un audio guide en disant prenez la tablette et allez faire votre circuit. Ça reste toujours dans cette logique de, on revient au projet de Marie-Suzanne de Ponton, hein. Il y a toujours cet aspect de médiation qui est important pour nous et cet échange avec l'humain. Donc la tablette propose des visuels numériques, des images numériques, mais c'est toujours avec un discours apporté par le médiateur et surtout un échange. Donc voilà, on peut répondre aux questions parce que l'image pour l'image est intéressante, ça apporte beaucoup de choses, mais n'est pas, en tout cas c'est notre avis, n'est pas suffisante dans la discussion. Quand même un échange qui permet d'apporter beaucoup d'éléments de précision et on voit, les gens sont quand même demandeurs. Ils sont impressionnés, il y a un énorme effet waouh que lorsque on manipule la tablette, on voit le visuel en vestige, la réalité. Et lorsqu'on met la tablette devant, on voit effectivement le décor, le même décor reconstitué. On peut tourner tout autour lorsqu'on est au cœur du château, dans la cour. on peut faire un 360 et on voit effectivement tout le décor tel que le voyaient les gens au 15e siècle. Donc effectivement, il y a cet effet waouh qui reste toujours impressionnant, même si on est de plus en plus habitué aux outils numériques, il y a quand même cet effet-là. Mais ça reste qu'un effet waouh. Juste après ça, nous, on apporte quand même beaucoup d'éléments d'information et on souhaite continuer à avoir ces éléments d'information. Lorsqu'on ne fait pas en saison basse des visites tablettes, les gens des fois nous la demandent parce qu'ils savent qu'il y a ces projets-là. Effectivement, ça, on n'y répond pas favorablement. On ne souhaite pas proposer les tablettes, même si la manipulation pourrait se faire assez facilement, mais on considère qu'il a été construit d'une certaine manière pour qu'il y ait un échange. Donc sans cet échange, on passerait largement à côté de cet outil-là. Donc ça, c'est le projet qui est déjà en place depuis 2015. Là, actuellement, on est en train de travailler sur un deuxième projet. Il y a des personnes ressources au niveau de Plaidéliac. Il y a deux personnes avec qui on collabore actuellement qui font... Alors, ils ont de multiples compétences, mais actuellement avec eux, on est en train de numériser complètement le château, donc ce qu'on appelle la photogrammétrie, avec des drones notamment. Donc on couple un peu les images aériennes via drone avec des images, des photographies prises au son. On fait un maillage, donc quelque part le château est ponctué de points et chaque point ça représente une photo. Après tout ça est mouliné dans un logiciel qui permet de reconstituer numériquement le château. Donc c'est en cours depuis deux ans. On n'évoque pas beaucoup, on n'en a pas encore parlé à la presse parce que là on est en train de finaliser, donc on souhaite finaliser le projet pour pouvoir présenter le global. Mais en tout cas c'est quelque chose qui est en route. Il y a également des partenaires au niveau de la lasérométrie, donc là c'est plutôt avec un laser, on n'est pas avec du drone, c'est plutôt pour les pièces intérieures, donc il y a un test qui a été fait notamment dans les caves comme cela. Donc l'idée c'est de pouvoir constituer le château. Après une fois que ça s'est fait, ça n'est qu'un outil. Mais c'est un énorme outil de potentiel, parce que techniquement lorsqu'on a le château reconstitué dans un logiciel sur un PC, on peut en faire ce qu'on veut. Je donne un exemple. On veut travailler. C'est des choses qui sont faites très largement par des gens qui sont des architectes, qui sont dans le BTP, où effectivement, ils conçoivent les sites en trois dimensions avant de les proposer à leurs clients. On peut déjà voir à quoi ça ressemble. On peut déjà travailler sur la décoration intérieure si on le souhaite. Là, c'est cette logique-là. Ça reste qu'une coquille. Donc après, l'idée, et c'est ce sur quoi je travaille actuellement, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire de cette coquille, comment profiter de cet outil-là. C'est pas une fin en soi. C'est un passage obligé pour un projet culturel, parce qu'il fallait d'abord faire cette photogrammétrie générale, avoir une photo 3D du site, du château. Mais après, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, on sait qu'on est en train de développer des projets, notamment, a priori, une exposition sur l'aspect numérique de la chose, qui peut partir dans plein d'axes différents. Donc, ça, on y travaille. La technique évolue tout le temps. Donc, effectivement, ça, on est obligé d'y revenir régulièrement. Il y a eu un projet en 2015, on est en 2021, on continue toujours à l'utiliser, et ça fonctionne toujours très bien. La technique évoluant. Et surtout, on a des compétences là aussi localement qui évoluent. Donc voilà, les rencontres font qu'on met en place différents projets. Et là, actuellement, on travaille sur ce projet-là qui serait destiné à être présenté au public en 2023, si tout va bien.
Tous ces dispositifs font partie de la valorisation du patrimoine?
Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, si on revient un petit peu en amont, je parlais tout à l'heure de l'équipe salariée, on a en charge, et l'association plus largement, on a en charge de faire vivre ce lieu. Alors ce lieu, il peut vivre de plein de façons différentes. Pour qu'il soit ouvert au public et pour que de toute façon on réponde à notre mission première qui est la sauvegarde du bâtiment, la première mission qu'on a conjointement avec le département, c'est effectivement de sauvegarder le bâtiment tel qu'il est. Donc ça représente peut-être pas quelque chose de très compréhensible pour le public lambda, mais c'est une bataille de tous les jours. C'est quand on parle d'un bâtiment qui a 800 ans, effectivement tous les ans il y a des travaux à faire, visibles ou pas par le public, qui se font en cours de saison ou plutôt en saison hivernale, justement pour que ça empêche pas la visibilité par le public durant l'été. Mais effectivement, c'est tous les jours, on est en train de travailler avec différents services, avec différentes compétences sur le bâtiment pour qu'il n'évolue pas de façon négative. Si on, en tout cas, on ne l'améliore pas, en tout cas, il faut le stabiliser, il faut le figer. Donc, on veut que le bâtiment reste tel qu'il est et tel qu'il a été proposé en 2008. Donc, effectivement, c'est un travail continu. À côté de ça, il y a un travail de programmation culturelle où là, effectivement, on le fait vivre par... Alors, deux biais, comme je l'ai dit tout à l'heure, la médiation. Donc là, c'est un gros travail d'accueil. Donc là, on est plutôt dans cette logique d'accueil. Lorsqu'on prend un billet pour visiter le château, on propose forcément des visites guidées à un moment donné, ou autonomes avec des dépliants lorsqu'on est en saison basse, ou avec des médiateurs durant la saison haute. Donc là, c'est un échange qui se fait avec la connaissance. Donc là, on est sur de l'humain. Il y a un troisième volet qui est de l'aspect culturel. Et là, ça peut revêtir pas mal de formes différentes. On est sur de la programmation. Donc nous, naturellement, on a l'habitude de faire un projet phare, donc c'est un travail annuel qui change régulièrement sur une thématique différente et ça donne corps à une exposition. Ce projet-là d'exposition temporaire est présenté au public lorsqu'il vient visiter le site. Il y a une tour qui est souvent dédiée à cela. Et à côté de ça, ça développe une thématique sur laquelle on rebondit pour proposer toute une série d'événements. Donc les événements sont multiples. Là, on part sur la programmation culturelle. Donc effectivement, il y a des choses qui sont un peu incontournables, qui font partie maintenant de l'ADN. Incontournable, rien n'est figé, mais qui font partie de l'ADN donc du château. On est attendu pour ça. C'est avec les nuits belles étoiles, où on peut dormir sur le site. Effectivement, tous les ans, si on a le malheur de pas en faire, on nous la réclame à corps et à cri. Donc c'est vrai. Si on la fait pas, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on propose autre chose en parallèle. Mais c'est vrai que quand on le fait pas, on nous en parle. Les cinémas plein air, quelque part, maintenant, c'est devenu quasiment obligatoire. Alors nous, ça fait C'est un grand plaisir parce qu'effectivement, même pour nous, ça permet de rebondir sur notre thématique et proposer des événements de nuit au château. C'est vrai que ça met en valeur le site. Et les gens qui connaissent déjà ce site, hein, ça leur donne une perspective qui est complètement autre. Donc il y a le film qui est intéressant, mais effectivement, un film dans un bâtiment historique, c'est encore autre chose. Donc ça, quelque part, c'est difficile de s'en séparer. Après, à côté de ça, nous, on propose beaucoup d'activités qui sont en fonction de la thématique abordée, que ce soit de la musique, du théâtre. Enfin voilà, on part sur beaucoup de choses différentes avec de multiples partenaires, que ce soit des artistes ou des institutionnels. Je pense notamment au Conservatoire de musique et de danse de Lamballe. Mais voilà, il y a beaucoup de partenaires qui peuvent se faire. Donc chaque année, tout ça s'est remis à plat et on voit ce qu'on veut en faire. Et il y a également une troisième logique, là aussi, qui font un petit peu partie de l'ADN et sur lequel on tient. Au château, on a quand même souvent un public familial qui est présent, en plus des touristes qui viennent l'été. Donc on a l'habitude de proposer des ateliers pour enfants l'après-midi. Et là aussi, donc à chaque vacances de l'été à Toussaint et à la Pâques. Et à chaque fois, c'est en fonction de la thématique. Donc tous les ans, c'est qu'il y a des enfants qu'on revoit 2-3 fois tous les ans parce qu'ils viennent à chaque atelier. L'atelier qui est proposé à Pâques à Toussaint n'est pas le même que l'été. L'année suivante, comme on change de programmation, forcément, on recrée d'autres choses. Donc effectivement, il y a une tranche d'âge entre 6 et 10-12 ans. On a tendance à les voir plusieurs fois, surtout quand c'est des petits-enfants parisiens qui viennent en vacances chez leurs grands-parents. Donc voilà, c'est quelque chose là aussi sur lequel nous, on attache beaucoup d'importance. Parce qu'on sait que le public est friand de ça et parce qu'on sait que c'est notre public naturel quelque part. C'est notre façon de présenter le site. Voilà, chaque tranche d'âge, il faut trouver des moyens d'intérêt. Le numérique peut être tout à fait intéressant pour les ados. Il peut être un peu plus en retrait par rapport à une visite de site avec un dépli en papier ou avec de la médiation. Il y a des adultes qui sont friands de la médiation. Voilà, à chaque fois, il faut proposer quelque chose. Et ces ateliers pour enfants, on sait que pour les plus jeunes, c'est vraiment intéressant de voir le site différemment par rapport à la médiation avec un atelier.
Comment viser un nouveau public par le biais de ces événements ?
Alors, c'est constamment, le public est toujours là aussi en évolution. Nous, on a cette logique de fonctionner à chaque fois qu'on propose une programmation sur une année, de réfléchir à qui pourrait être intéressé par ces animations-là. Donc, on sait qu'il y a toujours un public fidèle qui viendra continuellement. Je parlais tout à l'heure des grands-parents qui viennent 2-3 fois l'année avec leurs petits-enfants pour faire l'atelier. Quelque part, on les aura toujours. Un enfant restera toujours lorsqu'il mettra les pieds dans le château. Le site en lui-même, même s'il n'y a pas de médiation, même s'il est vide, il restera toujours émerveillé. Parce que c'est la tranche d'âge qui fait que vous rentrez dans un château fort, vous lui donnez une épée ou un costume. On propose aussi des costumes à l'entrée, donc les enfants adorent. Effectivement, ça lui suffit. Voilà, il va passer son après-midi là, il n'y a aucun problème. Par rapport à des publics qui viennent durant l'été, des touristes, hein, X ou Y, qui sont de passage ou pas, qui s'intéresse ou pas à l'histoire, qui s'intéresse à cette tranche historique médiévale ou pas. Effectivement, là, il faut voir, là, on aura toujours de tout. Là aussi, c'est des choses qui sont naturelles et c'est la médiation qui s'adapte par rapport à ça. Par rapport à nos événements, je parlais du numérique tout à l'heure, effectivement, on sait que ça va intéresser des publics qui sont pas forcément réfractaires, mais c'est vrai qu'il y a une tranche d'âge où c'est un peu plus difficile. On parle toujours de l'adolescence. Effectivement, c'est une tranche d'âge qui est plus difficile d'attirer sur un site qu'ils ont peut-être déjà vu d'ailleurs quand ils étaient au primaire. Donc effectivement, le voir 2-3 fois, ils l'ont peut-être vu avec leur famille, c'est peut-être plus difficile. Donc c'est des projets typiquement qui peuvent, eux, les intéresser. C'est pour ça que je reviens aussi sur notre exposition. On a toujours cette logique, on sait que notre public prioritaire et familial a toujours cette logique dans une expo de présenter une multiplicité de médiums, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on propose plusieurs discours. Plusieurs discours dans la lecture, on peut faire notamment du francophone et de l'anglais, parce que là on pense aux 25% de touristes étrangers qui viennent durant l'été. On peut avoir des textes courts ou des chapeaux qui, en début de paragraphe, qui sont effectivement pour un public un peu moins lecteur ou qui peut s'épuiser un peu plus. Par contre, on peut partir aussi sur des panneaux qui sont beaucoup plus fournis, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent aussi pour l'expo. Le site, ils le connaissent par cœur, ils viennent pour l'expo. Donc, ils veulent, quelque part, approfondir le sujet. On fait beaucoup d'éléments de numérique. Ça, c'est une habitude au château. Donc, dans toutes les expositions, il y a toujours des tablettes où on peut manipuler. Et il y a toujours cette logique aussi de ludique. C'est-à-dire qu'il y a des zones carrément consacré aux enfants d'habitude. Et si c'est pas le cas, en tout cas, là aussi, c'est des outils qu'on essaie de manipuler, de proposer en tout cas. Et je pense notamment aux tablettes. C'est vrai que ça, quelque part, c'est très utile de pouvoir utiliser ça. Parce que via des quiz, via des jeux, c'est tout à fait facile de traiter la thématique, mais de façon ludique. Et effectivement, là, les enfants, quel que soit leur âge, les adolescents, quel que soit leur âge, et les adultes, individuellement ou collectivement, des fois, il y a des familles qui sont devant l'écran à jouer ensemble sur le même jeu. Des fois, c'est uniquement pendant que les adultes lisent le texte, les ados sont plutôt en train de manipuler. Voilà, on sait que ça fonctionne très bien. Donc, quelque part, on essaie de répondre toujours à toutes les demandes. On essaie de se mettre dans la peau d'un public général ou un public spécifique en se disant, voilà, est-ce que ça m'intéresserait ? Et si ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que je pourrais proposer d'autre pour que je puisse répondre à cette demande-là ? Donc, ça, c'est un peu, c'est de l'ordre de la technique. C'est au moment de la programmation qu'on essaie de réfléchir à ça, effectivement. Ouais. Et au niveau de notre quotidien, quand on parle de médiation, là, effectivement, c'est aussi une réflexion qui est en continu. Mais ça, quelque part, ça se prépare en amont, c'est du professionnalisme. Ça se prépare aussi à l'instant T, lorsque, voilà, 5 minutes avant le groupe, on voit si c'est essentiellement du familial, on voit si c'est effectivement des familles, on voit que les tranches d'âge sont les enfants, voilà, et on s'adapte.
Avec la situation sanitaire actuelle, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?
Alors, actuelle et l'année dernière, parce que malheureusement, c'est pas actuellement uniquement, on est toujours en fermeture administrative depuis le 15 décembre, donc on attend la levée. Pour l'instant, on est toujours fermé au public. Et si on parle de l'expérience de l'année dernière, où effectivement, il y a eu un premier confinement dur, donc on a été complètement fermé au public, je crois le 17 mars jusqu'à fin juin. Nous, on a rouvert tout début juillet. Voilà, on s'est pris le mois de juin pour, comme vous le dites, je réponds à votre question, essayer de s'adapter. Et effectivement, c'est là aussi, ça paraît simple, mais c'est un chantier qui est assez énorme parce que il y a plusieurs logiques à voir, sachant que là, on était en pandémie, on essaie de découvrir et de comprendre ce qu'était cette pandémie. Donc là aussi, on devait mettre en place des protocoles sur un sujet qui était complètement méconnu ou en tout cas qui évoluait toutes les semaines. Donc quand je dis un protocole, en fait, j'ai envie de dire toutes les semaines, il y avait un protocole qui était rédigé. Un protocole au niveau de gestion du site, un protocole au niveau de l'entretien du site, je pense notamment au nettoyage, un protocole au niveau de la gestion de l'équipe qui allait pouvoir gérer ça. C'est de multiples choses. Donc effectivement, ça a été un surcroît de travail. Je pense que tous mes collègues au niveau culturel pourraient parler de la même chose. Je pense aux restaurateurs, aux hôteliers. Tous ceux qui ont cette logique d'accueil du public, de toute façon, ont dû constamment être en réaction par rapport à ça, par rapport aux nouvelles, par rapport aux avancées de l'information, ou aux avancées scientifiques, ou aux obligations qui nous étaient imposées. Donc voilà, effectivement, ça c'était un énorme travail qui a dû être composé. Après à cela, il y avait plusieurs façons d'y répondre. Donc chaque site aussi est différent. Lorsque je pense à des collègues qui sont en extérieur, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a un parc et jardin. D'ailleurs, actuellement, techniquement, ils peuvent être ouverts. C'est pas mon cas, j'ai assez peu. Alors le site, il est en intérieur-extérieur, donc quelque part, on peut pas considérer qu'on est en extérieur, donc moi je considère que c'est un site fermé. Donc je rentre dans cette logique de site fermé, même si effectivement des fois on est dans la cour et à ciel ouvert, mais n'empêche que, ou s'il y a des chemins de ronde, c'est aussi à ciel ouvert. Mais on est quand même sur des zones où on est fermé, où les gens sont amenés à se croiser. Donc voilà, il y avait cette logique-là qu'il fallait faire attention et on a imposé un protocole qui pour nous en juillet était assez strict. Effectivement, on a tout de suite imposé le masque à partir de 11 ans, il y avait du gel hydroalcoolique partout. On a complètement revu le parcours de visite qui était dans un sens unique où il n'y avait pas de croisement. Il n'y avait pas de brochure papier qui était distribuée. Je pense que de toute façon, les gens ne les auraient pas prises à l'époque. Ça a un petit peu évolué maintenant. On verra la nouvelle saison, mais les dernières, c'était inconcevable. Voilà, il y a toute une série de protocoles comme ça qui se sont mis en place. Moi, en tout cas, mon retour et de toute l'équipe, et je crois que là, en discutant avec mes collègues, c'est un peu partout pareil. Ça s'est très bien passé cet été. Les gens ont quand même assez facilement compris et très rapidement. C'était à la limite plutôt ça qui nous a surpris. C'est la rapidité à laquelle les gens ont accepté de porter un masque. S'ils l'avaient pas, on en distribuait en boutique. C'est des choses qui se sont faites très naturellement. Et c'est vrai que plus l'été avançait, plus de toute façon, on ne parlait que du Covid. Donc les gens étaient très largement informés. Donc ça s'est fait assez naturellement. Après la saison, c'est refermé. Moi, quelque part, le site pour le château ferme à partir du mois de novembre. Donc cette deuxième fermeture pour nous est un peu moins chagrinante. Elle est compliquée actuellement parce qu'on reçoit beaucoup beaucoup de scolaires. Normalement là on est complet en continu. L'équipe pédagogique ne fait que la réception de scolaires. Donc là effectivement étant fermé administrativement, on peut pas recevoir les enfants. Donc c'est plutôt nos collègues qui vont sur site dans les écoles si c'est possible. Ça chamboule beaucoup de choses effectivement. Donc la période n'est pas forcément rose. On n'est pas complètement fermé et prostré. Donc on travaille pour la rouverture. Le château est censé être ouvert le 1er avril, donc pour l'instant on attend cette période-là, on fait le doron, on prépare tout ce qu'il y a à préparer, on est en cours de montage d'exposition, vous voyez j'ai mis une photo hier sur Facebook, sur la page du château, sur le montage d'expo. Nous on fait comme si on va accueillir le public le 1er avril, si ce n'est, donc toujours pareil avec un protocole qui sera adapté, si ce n'est pas le cas, écoutez on attendra les décisions et on sera prêt le jour J en tout cas.
Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ?
Ravi de vous avoir rencontré, de vous avoir apporté quelques éléments d'explication. J'espère avoir donné envie de découvrir le château, qui effectivement, cette année, proposera encore de belles choses avec cette exposition qu'on n'a pas pu présenter l'année dernière, mais qui est un projet monté avec 3 artistes, parce que c'est l'exposition est le cœur d'un projet qui est plus large. C'est un projet de littérature où on a conçu avec ces artistes-là un roman graphique, donc qui est en vente en boutique du château. Donc voilà, c'est un très très bel objet, graphiquement, 96 pages, très très chouette, en lien forcément avec le château, c'est l'histoire de Lucette. Les fantasmagoriques aventures de Lucette au château de la Hunandée, un très beau titre et un petit peu long, mais c'est fait exprès. Donc voilà, l'exposition permettra de présenter ça. Donc je pense que là aussi, on va toucher beaucoup de personnes parce que c'est un projet qui sera très graphique. Donc là, on parlait de publics différents, de publics avec un S. Là, effectivement, il y aura matière à voir ou à découvrir pour beaucoup de personnes, aussi bien comment on conçoit un projet avec des artistes, comment on conçoit un livre, mais aussi quel est l'imaginaire qu'ils ont pu développer. Vous allez normalement prendre plaisir à voir ce projet-là. Donc nous, on n'attend qu'une chose, c'est accueillir les gens, simplement.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et bonne continuation.
Bonne fin de journée.
Cette interview a été enregistrée avant les dernières règles sanitaires. Le château de la Hunandée est alors ouvert depuis le 19 mai. Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!